Alléluia. Asseyons-nous. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole de Dieu? Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Nous restons assis pour écouter la parole de Dieu. Hier, le Seigneur nous a parlé sur la première loi. Vous savez, il y a tellement de lois. Je ne suis pas sûr que pendant ce séminaire ou cette conférence, nous allons aborder toutes les lois des cycles et des bénédictions ou de la bénédiction autant pour moi. Parce que toute la parole de Dieu est contenue ou contient des lois immenses et nous n'avons pas cessé de les découvrir. Mais par la grâce de Dieu, durant les quelques jours qu'on va passer ensemble, nous allons vous partager les lois que Dieu nous révèle pour cette circonstance, les lois des cycles de la bénédiction. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 3, à partir du verset 1. Marc chapitre 3, à partir du verset 1. Gloire à Dieu. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Dites la main sèche. Donc, les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi. Lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors Jésus, promenant les regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Alléluia. Cette histoire est merveilleuse. On est dans un contexte où Jésus est confronté à des lois. La Bible déclare que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et Jésus, quand il arrive, il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi de Moïse, mais il est venu accomplir cette loi. C'est-à-dire qu'il est venu compléter à la loi de Moïse ce qui lui manquait. Donc vous comprenez que la loi en elle-même n'est pas mauvaise. La loi est bonne. Alléluia. L'Ancien Testament n'est pas en réalité l'Ancien Testament a été complété. Il n'est pas venu abolir l'Ancien Testament. Jésus est venu accomplir l'Ancien Testament. Il est venu compléter, ajouter à l'Ancien Testament ce qui lui manquait. Par exemple, dans l'Ancien Testament, les gens ne connaissaient pas la nouvelle naissance. Les gens étaient croyants, mais ils n'étaient pas chrétiens. Alléluia. Et la Bible déclare que ceux qui sont morts selon la loi seront jugés selon la loi. Donc ces personnes étaient sauvées, non par le sacrifice de Christ à la croix, non par la grâce de Jésus-Christ, mais ils étaient sauvés par la loi de Moïse. Et ces choses n'étaient que la préfiguration de l'homme des choses à venir. Alors l'Ancien Testament a connu plusieurs dispensations. Et quand nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons qu'à plusieurs reprises les apôtres, quand ils ont prêché l'évangile, ils ont rappelé la loi. Donc la Nouvelle Alliance n'a rien contre la loi. Cependant, dans l'Ancien Testament, il manquait quelque chose au peuple de Dieu. Il manquait le Saint-Esprit. Nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Le Saint-Esprit venait en forme d'onction sur les rois et sur les prophètes pour accomplir des œuvres bien précises. Mais ce n'était que l'ombre des choses à venir. Alléluia! Donc, dans l'Ancien Testament, les gens ne pouvaient pas naître de nouveau. C'est pour cela qu'en fait, les gens étaient sous la loi. Ils n'avaient pas la révélation. La Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein, mais heureux s'il observe la loi. Donc la loi nous est utile uniquement en l'absence de révélation. Alléluia! Et ce peuple sans révélation, parce que l'esprit de la révélation ne leur avait pas été accordé, marchait selon la loi. Et donc cela était utile pour eux, parce qu'ils n'avaient pas de révélation. Et la loi est importante pour un peuple qui n'a pas de révélation. La loi est le moindre pire. La loi est le moindre mal. Alléluia. Et souvenez-vous que la dernière fois, quand on est venu, on vous a dit en fait que Dieu ne nous a pas créés pour marcher dans le bien et dans le mal. Parce que Dieu n'aime pas le bien et Dieu n'aime pas le mal. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, les gens marchaient dans le bien et dans le mal. Ils avaient la connaissance du bien et du mal. Et la Bible déclare que la loi était importante, mais cependant la loi aussi avait des inconvénients. Parce que Romain nous dit, qui a connu le péché, ce n'est pas la loi. Donc la loi nous donne la connaissance du mal. Cependant, Dieu n'aime pas le mal. Alléluia. Et donc c'était important la loi, mais la loi n'était pas tout à fait vitale pour notre salut. Chaque fois qu'il y a la loi te rappelle le péché. Et heureusement, au travers du sacrifice de Christ à la croix, nous avons été justifiés qu'on a vu hier. Amen, amen. Et donc, au travers de cette justification, nous sommes libérés de la condamnation de la loi. Alors, Jésus arrive maintenant pour accomplir la loi, pour ajouter à la loi ce qui lui manquait. Et là, il est confronté aux dépositaires de la loi, aux garants de la loi, les scribes et les pharisiens qui étaient là. Et qui attendaient de voir la moindre occasion d'erreur que Jésus pourrait commettre. Parce qu'ils étaient garants de la loi. Parce qu'ils étaient restés accrochés à la loi. Parce qu'ils n'avaient pas de révélation. Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de la révélation. Alléluia. Et quand Jésus vient avec l'esprit de la révélation, parce que souvenez-vous que Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il y a quelqu'un d'autre qui vient après moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient avec Jésus. Alléluia. Afin de compléter à ce qui manquait à la loi. Afin de compléter à la loi ce qui lui manquait. Jésus rentre donc dans le temple, dans la synagogue, et il trouve là quelqu'un qui est assis et qui depuis de nombreuses années ne pouvait pas utiliser sa main. Alléluia. Non, tout ça c'est pour que toi tu fasses une offrande. Dieu est en train de te parler par tout ça. C'est pour que tu fasses une offrande à l'église afin que l'église puisse être équipée encore d'un matériel plus performant. Amen, amen. Donc Jésus entre dans le temple et la Bible déclare qu'il trouve là un homme qui était assis dans le temple. Cet homme venait tous les jours à l'église, dans la synagogue. Cet homme écoutait les sermons des pharisiens et des scribes. Cet homme écoutait la loi. Alléluia. Cependant, la loi n'avait jamais guéri cet homme. Je répète, la loi n'est pas mauvaise en soi, mais Jésus est venu ajouter à la loi quelque chose qui manquait. Alors les gens sont là, ils regardent Jésus, et ils savent très bien qu'en fait, la loi interdit de faire quoi que ce soit le jour du sabbat. Le sabbat était un principe de la loi qui a été établi. Donc, aucune personne ne peut faire quoi que ce soit le jour du sabbat. Le jour du sabbat, tu ne dois rien faire, tu viens à la synagogue, tu écoutes le message, tu repars chez toi, c'est le jour du repos. Et les gens observaient la loi pendant des années, sans comprendre réellement. Alors, parce que je dis cela, quand j'entends la voix de quelqu'un ce soir qui est en train de dire, mais pourquoi est-ce que finalement, le thème de la conférence, c'est les lois et les cycles, les saisons, la bénédiction. Si la loi, en fait, n'est pas tout à fait vitale en tant que telle. Je suis en train de te dire que la loi est bonne, mais il lui manquait quelque chose. Et je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, nous allons voir ce qui manquait à la loi. Alléluia. Afin que la loi elle-même soit active en toi, parce que la loi aussi, c'est Dieu qui l'a instaurée. La Bible déclare que même quand tu t'es créé, il a inscrit sa loi dans ton... Cependant, la loi n'est rien sans quelque chose. Alors, il arrive, il trouve un homme qui est là, assis. Et Jésus veut leur enseigner quelque chose. Jésus est confronté à la loi. Il est confronté au dépositaire de la loi, au garant de la loi. Mais cependant, à côté, il y a quelqu'un qui a besoin d'une guérison. Il a une main sèche depuis de nombreuses années. La loi n'a pu rien faire à cet homme. Pour cet homme, la loi est restée inactive. La loi est restée morte
Parce que depuis longtemps, les scribes et les pharisiens ont prêché la loi, mais la loi n'a donné la vie à personne. La loi, c'est ce qui est écrit. Et la Bible déclare que, en fait, la lettre tue. La loi, sans ce que je vais vous révéler aujourd'hui, tue. Alors Jésus arrive. Le miracle de Jésus, si c'est un miracle qui nous enseigne quelque chose. Alors Jésus arrive, il leur pose la question, est-il permis de faire du bien ou du mal au jour du sabbat? Personne ne répond. Alors Jésus, pour leur donner la révélation de ce qui manquait à la loi, il va dire à cet homme, viens ici devant. Et cet homme arrive, et cet homme se tient là devant, et Jésus lui dit maintenant, étends ta main. Dites, étends ta main. Et cet homme étendit sa main. La Bible déclare qu'à l'instant, il fut guéri. Bien-aimé, la main signifie beaucoup de choses. Alléluia. Pourquoi la main? La Bible déclare que cet homme avait une main sèche. Une main sèche, ça veut dire une main qui est retrécie, une main qui est coincée, une main qui est bloquée. Bien-aimé, quand ta main est coincée, ta main est bloquée, ça signifie que ta main est inactive. En d'autres termes, ta main ne peut pas travailler. Ça veut dire que cet homme est resté pendant plusieurs années, il venait à l'église, mais il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas entreprendre. Il ne pouvait pas investir. Il ne pouvait pas se marier. Il ne pouvait pas toucher de l'argent avec ses mains. Il ne pouvait même pas manger avec ses mains. Pourquoi? Parce que sa main était sèche. Mais beaucoup de personnes viennent à l'église, mais vous avez une main sèche. Alléluia! Jésus est en train de faire comprendre une vérité spirituelle. Hier, on a parlé de la loi de la justification. J'aimerais prendre une illustration. La Bible déclare que si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos... À combien plus forte raison Dieu le Père donnera-t-il de bonnes choses aussi à ses... Donc Dieu donne des bonnes choses à ses enfants. Alléluia. Même la loi de Moïse contient beaucoup de bonnes choses pour les enfants de Dieu. La loi de Moïse contient beaucoup de bénédictions. Quand vous lisez simplement Deutéronome chapitre 28, vous allez trouver beaucoup de bénédictions qui sont énoncées par la loi. Cependant, ces bénédictions ne peuvent pas être actives parce qu'il manque quelque chose. Et beaucoup de chrétiens viennent à l'église, ils sont conscients de la loi, ce que la Bible dit, ce qui est écrit, sauf que ce qui est écrit reste pour eux lettre morte. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui nous manque, qu'on ne comprend ce soir. Dieu, notre Père, est bon. Comme toi, tu es un bon Père, tu ne donneras pas un poison à ton enfant s'il te demande du poisson. Alléluia. Alors la Bible déclare que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Et nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons beaucoup de promesses. La Bible déclare que nous avons tout pleinement en Christ. Alléluia. Et la Bible déclare que Jésus-Christ à la croix a tout accompli. Ça, c'est ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est, comme je disais tout à l'heure, une lettre morte pour nous. Aussi longtemps, effectivement, que nous regardons ces choses avec les yeux humains, avec les yeux de l'ancienne alliance, avec les yeux de la loi des hommes. Alors Jésus prend cet homme, il le place là. Pour nous faire comprendre qu'en fait, le problème n'est plus au niveau de Dieu. Si méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien pour votre raison, le Père donnera-t-il de bonnes choses à ses enfants? Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. En fait, Dieu a tout mis à disposition. Le problème n'est plus à ce niveau-là. Si je prends cette bouteille, et si le frère ici me demande la bouteille, frère, tu me demandes la bouteille, je suis Dieu. Alléluia. Je donne la bouteille, n'est-ce pas? Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que ce frère a reçu la bouteille? Pourquoi non? Parce qu'il n'a pas pris, parce qu'il n'a pas reçu. Mais la loi nous enseigne beaucoup de choses. La loi nous enseigne comment demander à Dieu. Et aujourd'hui dans nos églises, on enseigne beaucoup de choses aux chrétiens. Comment prier? Comment demander? Comment secouer le ciel? Comment jeûner? Comment faire en sorte que les bénédictions qui sont dans le ciel viennent sur la terre? Il y a beaucoup de lois dans la Bible qu'on enseigne au peuple de Dieu aujourd'hui pour pouvoir effectivement faire en sorte que Dieu nous donne toutes les bénédictions qu'il nous a réservées dans le ciel selon les promesses qui sont écrites dans sa parole. Mais Jésus nous enseigne au travers de cette personne qu'en fait le problème n'est plus au niveau de Dieu, parce que Dieu est un bon père, et comme bon père, il vous a déjà donné ce que vous lui avez demandé. Alléluia. Donc le problème n'est plus au niveau du demander. Alléluia. Et nous savons comment demander. Il y a beaucoup de livres qui parlent de comment prier, comment demander, comment jeûner efficacement. Alléluia. Mais je ne connais aucun livre qui enseigne sur comment recevoir. C'est pourquoi le thème de mon message ce soir, c'est la loi de la réception. Alors tu devais acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 Voici ce qui manque à la loi. C'est qu'en fait, les gens aujourd'hui apprennent beaucoup de préceptes. Ils apprennent beaucoup de recettes. Ils apprennent beaucoup de choses. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est vrai. Seulement, nous savons comment demander. Et nous demandons tous les jours. Nous savons comment secouer le ciel. Et nous secouons le ciel tous les jours. Nous savons comment jeûner. Et nous jeûnons tous les jours. Nous savons comment crier à Dieu. Et nous crions à Dieu tous les jours. Il y a des livres qui ont été écrits dessus. Nous savons comment demander. Cependant, nous ne savons pas comment recevoir. Et Jésus prend cet homme, il le place là. Et il va demander à cet homme de faire quelque chose que cet homme n'avait pas l'habitude de faire depuis des années. J'imagine peut-être que cet homme est né comme ça, c'est pas écrit. Et s'il est réellement né dans cet état, ça voudrait dire qu'en fait, Jésus lui demande de faire quelque chose qu'il n'arrive pas à faire depuis sa naissance. Alléluia. Mais Jésus savait très bien que cet homme ne le faisait pas et il était incapable de le faire. S'il était capable de le faire de lui-même, il l'aurait fait depuis longtemps. Parce que lequel d'entre vous qui s'aime réellement pourrait garder sa main sèche toute la vie alors qu'il sait comment faire pour en être guéri? Et les gens qui étaient autour pouvaient effectivement se poser la question, mais comment Jésus peut demander à cet homme de tendre sa main alors qu'il est conscient qu'il ne peut pas le faire? Et Jésus savait que cet homme était incapable de le faire. Cependant, Jésus demande quand même à cet homme de le faire. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de nous enseigner quelque chose. Je dis que la main est ce qui nous permet de recevoir. Je parle de la loi de la réception. J'ai tendu cette bouteille à ce frère parce qu'il me l'a demandé. Okay? Si ce frère ne tend pas sa main, il ne peut pas recevoir. Mais je ne peux pas non plus imputer le tort à ce frère. Parce que si réellement il est malade et il s'aime, il va recevoir ce que je lui donne parce qu'il est dans le besoin, n'est-ce pas? Donc je ne peux pas l'accuser de n'avoir pas reçu. En fait, il y a quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas à recevoir. Il y a quelque chose qui l'empêche de recevoir. Il n'y a personne ici, si on lui tend un billet de 50 000, ça existe en billet ici, de 10 000, parce que nous on a le billet de 50 euros. On te tend un billet de 10 000 francs, tu es dans le besoin. Il n'y a personne qui soit dans le besoin qui voit un billet de 10 000 qui va refuser de le prendre. Et si vous voyez quelqu'un pendant plusieurs années voir des billets de 10 000 francs, des sommes astronomiques, défiler devant lui comme ça, être incapable de saisir, c'est qu'il y a quelque chose qui l'en empêche. C'est pourquoi la Bible déclare que et précise que sa main était sèche. Alléluia. Sa main était inactive. Et la question que je me pose, mais c'est quoi cette main, spirituellement, ça signifie quoi? J'aimerais vous épargner tous les discours et toute la théologie. La main ici est simplement ce qui nous permet de recevoir tout ce que Dieu nous donne. Alléluia. Quand Dieu te donne quelque chose, il a déjà étendu sa main, il a donné. Et si toi, tu veux recevoir, tu dois également étendre ta main pour prendre. Si tu n'étends pas ta main pour prendre, en fait, tu ne recevras jamais. Et tu continueras à le demander à Dieu alors que Dieu a déjà donné. Il a mis à disposition tout ce que tu veux qu'il te donne. La main, ici, est ce qui nous permet d'aller chercher dans l'invisible les choses que Dieu a réservées pour nous afin de les amener dans le visible. C'est pourquoi je vous invite avec moi dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 8. Je vous ai dit que la faute n'est pas à cet homme, parce que cet homme, si réellement il le pouvait, il aurait pu étendre sa main depuis des années, il n'aurait même pas eu besoin d'attendre que Jésus vienne. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 8. Nous lisons ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise à cause de cela même. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. La Bible déclare que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à notre vie. Cet homme ne pouvait rien faire dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il était limité. Aussi longtemps que Jésus-Christ ne venait pas, il était limité par l'insuffisance de la loi. La loi en elle-même n'avait aucun pouvoir. Alors quand Jésus arrive, la Bible déclare que Jésus va ajouter à la loi quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est sa divine puissance. Et la Bible déclare que Jean-Baptiste a prophétisé là-dessus. Il a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui viendra après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et quand Jésus arrive, en fait, il baptise du Saint-Esprit et de feu. Et il donne à ses disciples, au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, sa divine puissance. Et ici, il est en train de dire que justement, cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à notre vie et à notre piété. Ça veut dire qu'en fait, ton mariage se trouve dans sa divine puissance. Ça veut dire que ton travail se trouve dans sa divine puissance. Ça veut dire qu'en fait, le miracle que tu recherches depuis longtemps se trouve dans sa divine puissance. Alléluia! Ça voudrait dire qu'en fait, ton entreprise va prospérer dans sa divine puissance. La prospérité de ton entreprise se trouve dans sa divine puissance. Cet homme ne pouvait pas investir. Il ne pouvait pas toucher un seul billet d'argent. Il ne pouvait pas entreprendre un travail. Il ne pouvait même pas se marier parce qu'il était bloqué dans sa vie. Sa main était sèche. Pourquoi? Parce qu'il manquait la divine puissance. Mais la divine puissance vient sur la main. Mais la main, c'est quoi finalement? Je vous ai dit que la main est ce qui nous permet de prendre les choses que Dieu nous donne. Alléluia! Et le texte dans la suite va nous expliquer finalement c'est quoi cette main. Nous sommes au verset 4. Au verset 5. Il dit à cause de tout ce qui précède, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Ça veut dire qu'en fait, la main dont il s'agit ici, c'est simplement ta foi. La foi est la main invisible, est la main spirituelle qui te permet en tant que chrétien d'aller prendre les choses que Dieu a mises à ta disposition au travers de sa divine puissance. Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il est mort, il a tout accompli. La Bible déclare que tout est accompli. Nous avons en lui tout pleinement. Et on peut se poser la question, parce que hier, dans la loi de la justification, on a posé la question de savoir, en fait, est-ce que vous avez déjà rencontré un chrétien qui est misérable? Vous avez répondu, oui, on a déjà rencontré un chrétien qui est misérable. Mais est-ce que dans la Bible, le Seigneur ne nous enseigne pas qu'en fait, il n'a jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants manquer son pain? On a dit, si la Bible dit. Donc, qu'est-ce qui explique entre ce que la Bible dit et ce que nous voyons dans la vie des chrétiens, il y a un écart. Est-ce que le problème est au niveau de Dieu? Non. Dieu est un bon père, il a tout donné. Ce qu'il manque, c'est la main pour recevoir ce que Dieu nous a déjà donné. Je parle de la loi de la réception. Alléluia! Et je disais que nous savons comment demander. Mais cependant, et très souvent, nous ne savons pas comment recevoir. Et la main ici est la foi qui te permet de recevoir ce que Dieu va te donner. Et il y en a qui vont me dire, mais j'ai la foi. Et c'est vrai que tous les chrétiens ont la foi. Mais cet homme également qui était assis dans le temple avait une main. Cependant, il ne pouvait pas recevoir. Tous les chrétiens ont la foi. Cependant, avec leur foi, ils n'arrivent pas à recevoir. Le problème n'est pas que le chrétien n'est pas au courant de ce qu'il a. Parce que quand je tends cette bouteille, le frère est bien conscient que la bouteille lui appartient et qu'on lui donne la bouteille. Cependant, il regarde la bouteille, mais sans pourtant la recevoir. Nous sommes au courant de tout ce que Dieu a prévu pour nous. On est au courant de toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Il y a eu beaucoup de messages, d'enseignements qui ont été donnés pour nous permettre de prendre connaissance de toutes les bénédictions que Dieu a mises à notre disposition. Il y a des messages sur la bénédiction, sur l'héritage, etc. Donc, en fait, tout chrétien qui écoute les messages, qui vient à l'église et qui lit la Bible est au courant des bénédictions que Dieu lui a déjà données. Cependant, il regarde ces bénédictions, c'est là sa portée, mais il ne peut pas les recevoir. Pourquoi? Est-ce que parce qu'il manque la main? Non, il a une main. On n'a pas dit qu'il avait une main coupée. Il avait bel et bien une main. On ne t'a pas dit qu'il te manque la foi. Non. Je ne suis pas en train de te dire ici que si tu ne reçois pas ce que Dieu te donne, c'est parce qu'il te manque la foi. Non. En réalité et en vérité, tu as réellement la foi. Sauf que ta foi est sèche. Alléluia. Sauf que ta main est sèche. Et c'est pourquoi il dit ici, faites tous vos efforts. Vous êtes déjà au courant que sa divine puissance à la croix de Golgotha vous a donné et a mis à votre disposition tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Maintenant, vous avez la foi, vous avez cru en cela. Le problème, c'est que votre main est sèche. Alors, faites tous vos efforts pour soigner votre main. Alléluia! Parce que votre main est malade. Alléluia! Et ici, il nous donne en fait le problème de la main. Le problème de cet homme n'était pas qu'il n'avait pas la main, il avait la main. Mais le problème, c'est que sa main était malade. Le problème des chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas la connaissance qui manque. Ce n'est pas l'information qui manque. Vous avez l'information, vous écoutez les messages, vous lisez les livres, vous lisez la Bible, vous êtes au courant. Vous pouvez même réciter toutes les promesses que Dieu a faites à votre sujet. Quand vous êtes dans les problèmes, d'ailleurs, vous récitez ces promesses. Et quand vous êtes dans les cliniques spirituelles, on vous donne les ordonnances, psaume chapitre 7, à lire 7 fois dans la semaine. Alléluia! Donc la connaissance est là. Le problème, c'est qu'en fait, la foi est malade. C'est pourquoi l'apôtre Pierre ici dit, faites tous vos efforts, débrouillez-vous à joindre à votre foi ce qui lui manque pour que votre main de la foi soit à nouveau opérationnelle afin de saisir la bénédiction que Dieu met à votre disposition par sa divine puissance. Et l'apôtre Pierre nous explique justement qu'est-ce qui manque à notre foi, que la loi ne peut pas nous apporter. Qu'est-ce qui manque à notre foi? Il dit, ajoutez à votre foi, premièrement, la vertu. C'est quoi la vertu? J'ai été surpris de découvrir ce que cela veut dire, la vertu. En regardant un petit peu le dictionnaire, on me dit qu'en fait, la vertu, il y a plusieurs définitions. Pour ceux qui prennent des notes, la vertu est une disposition de cœur qui porte vers le bien. La vertu aussi est une qualité ou un ensemble de qualités. On parlerait par exemple de Proverbe chapitre 31, les qualités de la femme. Et on l'appellerait effectivement la femme vertueuse. Donc elle a des qualités, elle se lève tôt le matin, elle s'occupe de son mari, de sa maison, etc. Vous connaissez très bien le passage. Et donc on voit ici les qualités d'une femme. Et on l'appelle donc la femme vertueuse, c'est-à-dire une femme qui a des vertus. La chasteté féminine également est une vertu. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est une autre définition de la vertu. Où il est dit qu'en fait, la vertu est un pouvoir. Alléluia! Il dit, la vertu est un pouvoir. Ça veut dire qu'en fait, tu peux avoir la main, mais si ta main manque de pouvoir, tu ne peux pas recevoir. Au-delà de ta volonté, au-delà de tes capacités humaines, mais si ta main n'a pas le pouvoir, n'a pas la capacité, la force de s'étendre, elle ne pourra pas recevoir. Et ici, on a vu que la main, c'est la foi. Donc, si ta foi manque de pouvoir, ta foi ne pourra pas recevoir. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui, nous avons la foi, mais notre foi est estropiée, notre foi est bloquée, notre foi est malade, notre foi est sèche, et nous ne pouvons pas recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Pourquoi? Parce qu'il manque à cette foi la vertu, c'est-à-dire le pouvoir. Et la Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Et quand vous lisez justement les armes en question dans Éphésiens chapitre 6, parmi les armes en question, on vous cite la foi. En d'autres termes, ça veut dire que la foi, notre foi, en elle-même ne suffit pas. Mais encore faudrait-il que cette même foi soit rendue puissante par la vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'en fait, si le Saint-Esprit ne se dépose pas sur ta foi est inactive. Ça veut dire qu'en fait, si ta foi manque de revêtement de l'esprit, ta foi ne pourra pas te permettre de saisir ce que Dieu met à ta disposition. C'est la raison pour laquelle cet homme est resté pendant longtemps. Il a connu certainement les dernières générations de l'Ancien Testament. Sa main était toujours sèche. Il est rentré dans l'époque transitoire. Il a connu l'évangile de Jean-Baptiste. Il est rentré dans les synagogues, sa main était toujours sèche. Pourquoi? Parce qu'il manquait à sa main, il manquait à sa foi un revêtement. C'est la vertu du Saint-Esprit. Le pouvoir que le Saint-Esprit donne. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'était pas capable depuis des années de faire quelque chose, soudainement, sur une simple parole, se surprend elle-même en train d'être capable d'étendre sa main. Alors qu'autrefois, il ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'entre le temps où il est né et le temps où Jésus est arrivé, quelque chose s'est passé. Jésus a amené ce qui manquait à sa foi, la vertu du Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne par tes propres forces. Tu as besoin de la vertu du Saint-Esprit. Parce que c'est la vertu du Saint-Esprit qui rend puissant tes actions, qui rend puissante ta vie, qui rend puissante ta relation avec le Seigneur. C'est la vertu du Saint-Esprit qui rend puissante ta foi. Et regardez un homme, 38 ans, au bord d'une piscine. Il ne peut pas se lever. J'imagine que beaucoup de personnes sont arrivées avant Jésus. La Bible déclare que cet homme était là 38 ans. On ne nous dit pas qu'il avait 38 ans d'âge. On nous dit qu'il était là au bord de la piscine Bethesda. Pendant 38 ans. Ça veut dire qu'en fait, on oublie son âge. On ne sait pas quand est-ce qu'il est né. Mais on compte juste les années qu'il a mis au bord de la piscine. Ça fait 38 ans. Ça veut dire qu'en fait, le temps qu'il a mis là à la piscine, malade, c'était 38 ans. Ça veut dire qu'il était malade avant même la naissance de Jésus. Alléluia! Donc pendant longtemps, quand on ajoute cette durée de 38 ans, plus son âge, on ne sait pas combien, cet homme était là depuis longtemps. Et depuis longtemps, il ne pouvait pas se lever et marcher. Vous comprenez cela? Ce n'est pas qu'il n'avait pas la foi. S'il n'avait pas la foi, il ne serait pas venu au bord de la piscine. S'il est au bord de la piscine aujourd'hui, c'est parce qu'il croit que lui aussi peut recevoir la guérison. Alléluia! Si vous allez à l'hôpital, c'est parce que vous savez qu'en fait, vous pouvez recevoir la guérison. Alléluia! Sinon, vous ne perdez pas votre temps en allant à l'hôpital. Si vous venez à l'église, c'est parce que vous pouvez recevoir la guérison. Et vous avez la foi, vous allez recevoir la guérison. Mais vous pouvez venir à l'église tous les jours, tous les dimanches. Si la puissance du Saint-Esprit ne descend pas sur vous et ne oint pas votre foi, vous ne serez jamais guéri. Je suis en train de te dire que ta foi a besoin d'onction. C'est ça la vertu du Saint-Esprit. La vertu du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'en fait, l'onction du Saint-Esprit vient et revêt ta foi. Et voilà qu'un homme qui était là couché depuis 38 ans, ne pouvant pas se mettre debout, il se surprend lui-même en train d'être capable de se mettre debout et de marcher. Pourquoi? Parce que Jésus est venu ajouter à sa foi ce qui lui manquait. En fait, Jésus, on te dit une chose. Avant de te guérir toi physiquement, Jésus a d'abord besoin de guérir ta foi. Parce que qui est réellement malade? Ce n'est pas ton corps qui est malade. Ce n'est pas ta main physique qui est malade réellement. Ce n'est pas ton pied qui est malade pour les infirmes. Ce n'est pas ton œil qui est malade pour les aveugles. En réalité, c'est d'abord ta foi qui est malade. Alors Jésus vient régler le problème de la foi. Il dit, étends ta main. Et comme lui vient avec le Saint-Esprit et le feu, quand il dit « Étends ta main », la parole qui sort de la bouche de Jésus est accompagnée par la vertu du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit. Voilà que la même parole que les scribes peut-être, ou les pharisiens ont dit à cet homme, que les sacrificateurs ont dit à cet homme, n'a pas produit de miracle depuis longtemps, depuis plus de 38 ans. La même parole prononcée de la bouche de Jésus va produire le miracle. Pourquoi? Parce qu'il y a la vertu du Saint-Esprit. C'est quoi la vertu du Saint-Esprit? Regardez la femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Pendant 12 ans, elle saigne. Pendant 12 ans, elle est écartée de la société. Pendant 12 ans, elle ne peut pas venir devant les hommes parce qu'elle a honte. Et parce qu'elle est marginalisée, parce que c'est interdit selon la loi. Qu'une femme qui est atteinte d'une perte de sang vienne publiquement devant les gens. C'est considéré comme une impureté. Donc, elle est mise à l'écart. Mais la Bible déclare que, ayant entendu parler de Jésus, alléluia, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Bien-aimé, attendez, je n'ai pas fini. Pendant longtemps, elle a entendu parler de Jésus. Vous comprenez cela? Mais elle ne s'était jamais levée pour aller. Les mêmes personnes lui ont parlé de Jésus. Il est passé par là, il est passé par là. Cependant, elle ne s'est jamais levée. Mais ce jour, quelque chose est arrivé dans sa foi. Ce jour spécialement, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même. Qu'est-ce qu'il lui a dit en elle-même? C'est la vertu du Saint-Esprit qui lui a parlé. Il y a une force qui est venue en elle et qui l'a soulevée, qui lui a dit, si tu peux seulement toucher le pan de sa robe, tu seras guéri. Cette force, c'est le pouvoir du Saint-Esprit qui t'amène toi à faire des choses que tu n'es pas capable de faire à temps normal. Voilà un homme qui n'était pas capable de tendre sa main, qui est capable de tendre sa main. Pourquoi? Pas par sa propre force, ni par son intelligence, mais par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Je suis en train de dire que si ta foi n'est pas remplie de l'onction du Saint-Esprit, ta foi sera morte. Comme une lettre morte, comme la loi est morte. Tu as besoin de la foi vivante, la foi agissante. Et la foi vivante et agissante, elle ne vient pas par la loi, elle ne vient pas par tes efforts personnels, elle vient par la vertu du Saint-Esprit. Elle vient par la vertu du Saint-Esprit. Voilà ce qui manquait à la loi dans l'Ancien Testament et que Jésus est venu ajouter dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir quelque chose venant du ciel sans la vertu, le pouvoir du Saint-Esprit. Tu sais comment demander, mais tu ne sais pas comment recevoir. Même quand tu demandes, tu penses savoir comment demander, mais en réalité, tu ne sais même pas demander. Parce que la Bible déclare que vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous comprenez? Finalement, on se rend compte que même demander, on ne sait pas demander. Malgré le nombre de livres qu'on a pour savoir demander, prier, etc., on ne sait pas demander. Ce n'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons saisir les choses de Dieu. Il y a foi et foi. Je me retenais que les païens aussi ont la foi. Cependant, les païens ne peuvent pas recevoir ce qui vient du ciel. Alléluia. Je me retenais qu'en fait, les gens de l'Ancien Testament aussi avaient la foi. Alléluia. Mais cependant, les gens de l'Ancien Testament n'étaient pas chrétiens. C'était en fait des païens croyants. Et de nos jours, il y a des païens croyants. Il y en a même qui croient mieux que des chrétiens. Vous comprenez cela? Ce n'est pas un problème de foi. Il y a la foi et la foi. Et quand vous regardez les païens, ils ont une certaine foi. Sauf que leur foi est basée sur certaines choses. Leur foi est peut-être basée sur le pouvoir des ancêtres. Leur foi est basée sur leur propre intelligence, leur propre capacité. C'est une forme de foi. Leur foi est basée certainement sur leur argent. Leur foi est basée sur un parent qui est bien placé, qui pourrait certainement pistonner quelque part pour qu'il puisse avoir un poste bien placé. Vous comprenez? C'est aussi la foi. La foi est une relation de confiance. Ils ont mis leur confiance certainement dans leurs idoles. Ils ont mis leur confiance dans une personne. Ils ont mis leur confiance et ça peut tenir pendant un temps. Et ça peut produire des résultats. Ce type de foi aussi, ça agit. Cependant, ce n'est pas de cette foi que Jésus nous parle ici. Dans l'église, également, quand on arrive dans l'église, parmi les chrétiens, il y a la foi et la foi. quand on sort du côté du monde, on vient à l'église, il y a la foi et la foi. La foi dont il s'agit ici, ce n'est pas la foi qui t'a permis de devenir chrétien. Parce qu'il y a la foi qui t'a amené au salut, pour croire que Jésus est mort à la croix. Cette foi-là, on a prêché Jésus, tu as été touché et tu as pleuré. Ça a commencé par une émotion. Mais la foi n'est pas une émotion. Alléluia! Mais quand même, il y a eu une émotion parce que vivement touché par l'Esprit, tu as pleuré sur tes péchés. Et tu as accepté Jésus dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur. Et tu as dit, je crois en Jésus. Et donc, tu as été sauvé, ton nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Cependant, tu es toujours misérable. Tu es toujours fauché. Tu es toujours malade. Tu es toujours au chômage. Tu es toujours célibataire. Donc, même dans l'église, il y a foi et foi. Et donc, justement, Jésus, quand il rentre dans l'église, il regarde les chrétiens. Il voit qu'il y a des chrétiens qui ont cru et qui sont assis, qui écoutent le message. Cependant, leur main est sèche. Alors, il vient ajouter à leur foi ce qui manque. Il leur apporte le Saint-Esprit. Je me retenais que quand on prie pour toi, tu ne dois pas t'attendre à ce que le pasteur fasse un miracle pour toi. Tu dois t'attendre à ce que le Saint-Esprit descende sur ta foi. Non, je reprends cela. Tu dois t'attendre à ce que le Saint-Esprit descende sur ta foi. Parce que tant que le Saint-Esprit n'a pas encore oint ta foi, tu vas voir des choses se passer autour de toi. Il y en a qui vont tomber, il y en a qui vont crier, il y en a qui vont te guérir, qui vont te témoigner. Chez toi, rien ne va se produire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, la vertu du Saint-Esprit n'est pas encore descendue sur ta foi. La foi n'est pas seulement la connaissance de la parole de Dieu. La foi n'est pas seulement le fait d'avoir une pensée positive et de croire fort et dur et dire oui, je crois et je reçois. Non. Tu as répété ça depuis longtemps. Tu as récité des proverbes. Tu as récité des promesses. Rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la loi qui est écrite, ta foi est morte parce que ce que tu récites, c'est une lettre morte. Tu as besoin de quelque chose au-delà de la loi. Tu as besoin de quelque chose au-delà de ce qui est écrit. Tu as besoin que ta foi soit loin de l'onction du Saint-Esprit. Mais cependant, un jour, tu vas réciter le même verset, la même promesse, et soudainement, quelque chose de différent va se produire en toi. C'est que ce jour, l'onction est descendue sur ta foi. Tu devras acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, ma foi n'est rien sans l'onction du Saint-Esprit. Et l'objectif de Dieu en premier n'est pas de guérir mon corps, mais c'est d'abord de guérir ma foi. Parce que ma foi est la main qui me permet de recevoir. Alléluia. Il dit, nous devons joindre à notre foi la vertu. La vertu est aussi une voix qui parle en toi. Comme la femme atteinte d'une perte de temps depuis 12 ans, quelque chose lui dit, si tu peux seulement toucher le pan de sa robe, tu seras guéri. Quand on prie pour toi, pour une guérison, pour une bénédiction, ne t'attends pas à ce que réellement le verset que tu as lu ou que tu as entendu, le prédicateur prêcher, agisse tout seul en toi. Tu dois prendre cette parole dans ton cœur, la serrer comme dit David, d'accord? Mais tu dois demander à Dieu, le Saint-Esprit, sur ta foi. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas une simple pensée, comme je disais. La foi aussi est un don. La Bible nous parle du don de la foi. Et tout don parfait et toute grâce excellente nous viennent d'en haut. Donc, la foi vient d'en haut. La foi ne vient pas de la bouche d'un prédicateur. La foi ne vient pas de ce que tu lis. La foi vient d'en haut. Et un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je parle de la loi de la réception. Tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu as seulement entendu ou que tu as récité, que tu as lu. Tu dois recevoir ce qui te vient d'en haut. Or, la foi dont je parle, il ne s'agit pas de ce qui est écrit. La foi dont je parle, c'est la foi qui vient d'en haut. Parce que la foi est un don. Alléluia! Je vais te dire une chose. Tout chrétien et tout serviteur de Dieu ne peut rien faire sur la terre avec la foi qu'il a amenée au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous amène le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans le Saint-Esprit, il y a non seulement les dons spirituels, non seulement le fruit de l'Esprit, mais il y a également les dons spirituels. Et dans les dons spirituels, il y en a 9, n'est-ce pas? Il y a le don de la prophétie, le don du parler en langue, l'interprétation des langues, n'est-ce pas? Le don de la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, alléluia. Le don de guérison, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas le don de guérison. C'est le don des guérisons. C'est-à-dire que dans le même don de guérison, il y a plusieurs guérisons. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un peut avoir le don de guérir le palud, mais ne pas avoir le don de guérir le cancer. Mais lisez, il dit le don de guérison. Les dons de guérison, il y a plusieurs dons de guérison. C'est-à-dire que guérison là est au pluriel. Vous comprenez cela? Mais quand même dans le don de guérison, il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs diversités. Quelqu'un peut avoir le don pour guérir le cancer et buter devant un simple palud. Mais on va fermer la parenthèse, ça c'est notre enseignement. Vous verrez ça à l'école de ministère avec les enseignants. Amen, amen. Et il y a donc le don également de... Maintenant je vais vous faire remarquer quelque chose. Comment je peux manifester le don de prophétie? Est-ce que simplement en lisant la parole de Dieu et en récitant les promesses? Si par exemple, je viens à ce frère et je dis, frère, j'ai une parole pour toi. Alléluia. Oh! Le frère est content parce qu'il se dit que je dois recevoir une prophétie, n'est-ce pas? Et je commence à m'agiter. Dieu est ici. Alléluia. Je commence à tout ça. J'ai tout renversé. Et à la fin, je dis, frère, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour toi afin que tu sois sauvé. Le frère, par respect, il va dire amen. Mais il va me dire, frère, je connais le verset, c'est Jean 3,16. Vous comprenez cela? Donc, c'est pas une révélation pour lui, ce n'est pas une prophétie pour lui, vous comprenez cela? Donc, la prophétie, c'est pas ce qui est écrit. Mais la prophétie est ce qui est révélé. Comment moi, je peux saisir ce qui vient en haut et le révéler au frère? Comment je peux le faire? Dans les 9 dons, il y a un don qui est commun à tous les serviteurs de Dieu et à tous les chrétiens, sans lequel même les dons spirituels, tu ne peux pas les exercer. C'est le don de la foi. C'est par la foi que je peux recevoir une parole et croire qu'elle vient de Dieu et avoir le courage, la force d'aller vers le frère et de lui dire, voici, ainsi parle l'Éternel, alors qu'à temps normal, j'aurais jamais pu le faire. À temps normal, je n'aurais jamais pu le faire. Mais quand je reçois la parole, la prophétie, et que je résiste parce que je suis un être humain, je me demande est-ce que ça vient de Dieu ou pas. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit descend sur ma foi. Donc, Jésus envoie la vertu du Saint-Esprit sur ma foi. Et soudainement, je me lève, alors qu'à temps normal, je n'aurais jamais pu le faire. Je sens comme quelque chose qui me pousse et qui me porte vers le frère. Et je vais vers le frère. Je dis, frère, ainsi parle l'Éternel. Et là, je sens le revêtement en onction. Je sens la vertu de l'Esprit sur ma foi en cet instant. Et je peux démontrer maintenant comment le don de la foi peut opérer au travers de la prophétie. Et je peux dire à ce frère, frère, tes jours ne sont pas comptés. Le diable était menteur. Par 4 reprises, il a voulu te tuer. Premièrement, tu as failli mourir par la maladie. Le Seigneur t'a sauvé de la maladie. Deuxièmement, c'était un acte de sorcellerie. On t'a touché au pied. Et pendant très longtemps, tu as eu une douleur. Tu as été alité. Et tu as cru que c'était quelque chose d'anodin. Le Seigneur t'a fait comprendre plus tard que c'était un combat spirituel. Tu t'es mis en prière. Et avec des frères, vous avez prié. Et soudainement, ton pied a été rétabli. Tu as su, en fait, c'était quelque chose qui venait du monde des ténèbres. Vrai ou faux?
Vrai.
Pendant que je prêchais là, je n'avais pas de prophétie. Cependant, j'avais la foi. Alléluia. Mais quand la prophétie arrive, je la reçois, je regarde le frère depuis longtemps, mais je n'ai pas le courage de venir le voir. Mais pendant que je continue de prêcher, je sens dans mon esprit une force qui descend dans mon cœur. C'est l'onction du Saint-Esprit. La Bible déclare que personne ne peut servir Dieu si ce n'est pas la force que Dieu lui communique. C'est-à-dire que tu ne peux pas exercer un don spirituel si tu n'as pas la force qui vient en haut, le revêtement du Saint-Esprit, la vertu du Saint-Esprit. Et quand j'ai senti la vertu descendre en moi, alors en ce moment j'ai senti ma main s'étendre, j'ai commencé à être relax. Je me demandais, est-ce que vraiment je peux le faire? Est-ce que je peux le faire? Oui, ça m'arrive aussi. Je me pose la question. La parole, je l'ai reçue, mais est-ce que j'y vais, est-ce que je ne vais pas? Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et si je me plante? Donc, ma main est comme ça. Ma main est bloquée. Je ne peux pas agir. Mais quand la vertu arrive, la vertu me rend relax. Ma main est libérée.
Et du coup, je me sens plus libre de venir vers quelqu'un. Et je dis, voilà, ainsi par l'Éternel.
La troisième fois que tu as failli mourir, c'est un complot.
Les gens t'ont voulu du mal. Ils t'ont fait un complot. Et heureusement, ce jour, le Seigneur t'a dit, ne sors pas de chez toi. Tu es resté à la maison. Quelque chose a parlé dans ton cœur. Et bizarrement, tu n'avais pas envie de sortir. Tu es resté à la maison. Tu as échappé à un coup, à un complot. Plus tard, tu as découvert effectivement qu'il y avait des gens qui avaient fait un complot contre toi. Et tu as su que le Seigneur t'avait gardé à la maison. Vrai ou faux?
Amen.
La quatrième fois que tu as failli mourir, c'était un accident. Dans une voiture, la voiture a fait l'accident. Et tu es sorti de là, sain et sauf. Idem. Sain et sauf. Sain et sauf. Vrai ou faux?
Vrai.
Ça, on appelle ça la parole de connaissance. C'est-à-dire que la parole de connaissance va révéler les problèmes que la personne a connus ou vit. Maintenant, jusqu'à présent, en fait, je ne lui ai pas donné la solution. Il n'y a pas de solution. Vous comprenez cela? Donc, quand je lui ai dit tout ça, ça change quoi sa vie? Rien. Maintenant, il lui faut une parole de sagesse. Et là, j'ai encore besoin de la vertu du Saint-Esprit. Amen, amen. Parce que la parole de sagesse, on ne joue pas avec ça. C'est-à-dire que la parole de sagesse, c'est quelque chose, c'est une parole qui vient changer le cours de l'histoire de quelqu'un. Donc, tu vas parler sur la vie de quelqu'un. Il va prendre une orientation, il va agir en fonction de ça. Donc, il s'agit de sa vie, il s'agit de son histoire, il s'agit de sa destinée. Donc, il faut faire attention à ce que tu vas dire. Il ne faut pas lui dire de partir à gauche alors que Dieu lui dit d'aller à droite. Parce que si tu lui dis d'aller à gauche alors que Dieu lui dit à droite, il ira à gauche, il va perdre 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de s'apercevoir que le prophète avait menti. Et il gardera un mauvais souvenir de ce prophète parce qu'il m'a fait perdre du temps. Donc là encore, j'ai besoin de la vertu du Saint-Esprit pour oindre ma foi et me donner la force, le courage de venir vers toi et te dire ainsi par l'Éternel et te donner une direction prophétique pour que tu agisses conformément à ce que je crois avoir reçu de Dieu afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Mais je peux être stressé, je dis mes frères, j'ai peur parce que je n'ai pas envie de le mettre à côté de la plaque. Mais qu'est-ce qui va m'aider? C'est la vertu du Saint-Esprit qui va descendre sur mon cœur, qui va oindre ma foi. Et du coup, ma foi reprend la force. Ma foi devient comme une main qui se débloque et qui s'étend. Et je me sens plus relax. Voilà pourquoi je peux nager dans l'onction prophétique de façon aisée. Mais il n'est pas dit qu'à temps normal, je suis toujours comme ça. Faux. À temps normal, vous venez me trouver, je suis comme ça, comme vous, je mange le manioc, je mange le feu de manioc, les atangas. Voilà, on mange ensemble. Et on peut manger là. Vous savez, il y a des gens parce qu'ils croient qu'il est en face d'un prophète. Et tous les jours, maintenant, le prophète. Non, 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 non. Je mange le manioc avec toi. Je mange les attaquants avec toi. Mais tant que la vertu du Saint-Esprit ne s'est pas saisie de ma foi, je ne peux rien faire. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin d'un revêtement. Dis revêtement. Un revêtement. La Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Saül, Saül fut changé en un autre homme. Lorsque le Saint-Esprit descendait sur Samson, Samson était transformé en un autre homme. Mais la vertu du Saint-Esprit descend sur toi pour accomplir quelque chose de bien précis. Samson avait été suscité pour détruire les Philistins et pour délivrer le peuple de Dieu de la main des Philistins. Donc quand Samson n'était pas en face des Philistins, Samson n'avait pas le revêtement de l'esprit. Samson n'avait pas la vertu de l'esprit. Vous comprenez? Le pouvoir de l'esprit n'était pas. Alors il pouvait rigoler, il pouvait manger tout ce que les gens mangent. Et c'était un homme ordinaire comme vous. Il pouvait prendre le taxi avec vous, discuter le taxi avec vous au carrefour Chabonnage, au carrefour Nzayo. Vous secouez, c'était un homme ordinaire. Bien aimé, le même homme, quand le Saint-Esprit descend sur lui, ce n'est plus la même personne. Alléluia! C'est ça la vertu, le pouvoir du Saint-Esprit qui manque à la foi de beaucoup de chrétiens. Et ça peut arriver pendant que je mange le manioc. Je sens l'onction. Waouh! Et là, je change. Je balance le manioc. Et je commence à parler au frère. Parole de sagesse maintenant. Frère, et Dieu t'a épargné de tous ces quatre accidents pour un seul but. Parce qu'il veut que tu puisses le servir.
Amen!
Et ça, il te l'avait déjà dit, n'est-ce pas? et tu es passé par plusieurs étapes. Tu as fait des études. Tu as une connaissance. Okay? Mais Dieu t'a dit à plusieurs reprises, laisse tout ça, viens me servir. Ça, c'est la direction que Dieu te donne. Rentre dans son œuvre et sers l'Éternel. Parce que tu es un pasteur ici et là.
Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Lève-toi, 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 lève-toi. Prends l'onction, prends l'onction. Prends... Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Reçois l'onction. Au nom de Jésus. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Dans le nom puissant de Jésus. Et que ce qui a retenu ta vie jusqu'à présent comme une main sèche, lâche prise maintenant. Afin que ta main soit relâchée et que tu puisses te mouvoir dans ta destinée. Au nom de Jésus. Amen. La vertu du Saint-Esprit te donne le courage de te lever, aller prêcher l'évangile. Alors qu'à temps normal, tu n'aurais jamais pu le faire. La vertu du Saint-Esprit te donne la force de parler devant des tribunaux sans même avoir préparé le discours, mais la vertu de l'Esprit te donne à l'instant les mots. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, parce que ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'instant même. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne réussissent pas dans leurs études? Tout simplement parce qu'ils manquent à leur foi la vertu. Parce que la vertu du Saint-Esprit est capable de te donner l'inspiration devant la feuille de copie de l'examen du bac ou du BPC. Le pouvoir, je parle de la vertu, le pouvoir de l'Esprit est capable de te révéler les épreuves qui viendront au bac et au BPC. Tu ne m'as pas compris. Quand Jésus, écoutez-moi bien, quand Jésus dit, nous ne savons ni le jour ni l'heure, alléluia. Il dit, parlant de son retour, je ne sais ni le jour ni l'heure. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Mais mon Père seul sait quand est-ce que je reviendrai sur la terre. Donc Jésus lui-même, avant d'être élevé, ne connaissait même pas quand est-ce qu'il reviendrait sur la terre. Mais regardez ceci. La Bible déclare que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs du cœur de Dieu. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs du cœur de Dieu. En d'autres termes, le Saint-Esprit connaît les secrets du cœur de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, même les secrets les plus profonds, parce que c'est par le Saint-Esprit que nous avons accès aux secrets du cœur de Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en fait, en d'autres termes, le Saint-Esprit, lui, connaît quand est-ce que Jésus-Christ reviendra. Si Jésus ne connaissait pas quand est-ce qu'il reviendra lui-même, le Saint-Esprit qui est le cœur de Dieu et qui est le centre des secrets de Dieu connaît quand est-ce Jésus-Christ reviendra. Maintenant, je te donne un secret. Si tu veux savoir quand est-ce que Jésus-Christ reviendra, tu devrais être ami du Saint-Esprit. C'est pourquoi un Thessalonicien nous dit en fait que le jour là, un Thessalonicien nous dit que le jour du Seigneur, ceux qui seront en communion avec lui ne seront pas surpris de ce jour. Pourquoi? Ce n'est pas que tu connaîtras exactement la date, le calendrier. Non, 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 non. Mais c'est-à-dire que ton esprit sera en alerte. C'est par la vertu du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Les gens qui ont la foi basée seulement sur la lettre seront surpris. Par contre, ceux qui ont la foi revêtus de la vertu du Saint-Esprit, ointes de l'onction du Saint-Esprit, ne seront jamais surpris des choses qui arriveront dans leur vie. Ils seront toujours en alerte. Quand ils sortent de chez eux le matin, ils sentent comme ce frère-là qu'il ne faut pas sortir. Ils sentent qu'il ne faut pas faire telle chose. Pourquoi? Parce qu'il y a la vertu du Saint-Esprit sur leur foi. La question aujourd'hui est de savoir, est-ce que ta foi est ointe? C'est ça le secret de la réussite. Il m'est arrivé parfois, là où je travaille, j'arrive, je ne sais pas. Je suis surpris. Mais le Saint-Esprit me saisit et me révèle ce que je dois faire. Je le fais et j'ai réussi. Je suis en train de dire à quelqu'un ici que si tu veux réussir dans ton entreprise, tu as besoin de la vertu du Saint-Esprit. Si tu veux réussir dans tes études, tu as besoin de la vertu du Saint-Esprit. Si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends, tu as besoin de la vertu du Saint-Esprit. Donc tu dois ajouter à ta foi la vertu.
C'est la vertu qui donne la capacité à ta main de s'étendre et de recevoir ce que Dieu va te donner. Prochainement, quand le Seigneur permettra, je vous enseignerai les autres, parce qu'il y en a sept, on a vu tout à l'heure. Il y a la vertu, la piété, etc. Ça, c'est autre chose. Mais ce soir, le Seigneur a bien voulu que je m'arrête sur la vertu. Pour nous faire comprendre qu'en fait, le problème n'est pas au niveau du demander. Nous demandons, nous ne recevons pas. Simplement parce que nous ne savons pas comment recevoir. Pourquoi? Parce que notre main est bloquée. Et pour que notre main soit débloquée, il faut que le Saint-Esprit descende. Et notre main, c'est la foi. Alléluia. Et je sens maintenant le besoin ce soir de passer à la pratique. Nous allons tous nous lever. Nous parlons des cycles de bénédiction. Et je suis convaincu que personne ne partira d'ici comme il est rentré. Et que vos mains aujourd'hui vont recevoir la vertu du Saint-Esprit. Vont être saisies par la vertu, par le pouvoir du Saint-Esprit. Afin de pouvoir saisir ce que Dieu vous tend depuis longtemps. Il y en a certainement qui ont demandé à Dieu une guérison. Il y en a qui ont demandé à Dieu une nouvelle saison. Il y en a qui ont demandé à Dieu une délivrance. Il y en a qui ont demandé à Dieu un travail. Vous savez, je me réveille d'une chose. Il y a quelqu'un ici à qui Dieu parle. Tu as demandé à Dieu le mariage. Aussi longtemps que tu resteras en train de confesser, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier, tu ne te marieras jamais. Mais quand la vertu du Saint-Esprit vient sur toi, tu te rends compte qu'en fait, tu as commencé à changer ton langage. Et ce n'est pas un homme qui va te demander de répéter des pensées positives ou bien des paroles positives. Simplement, le Saint-Esprit lui-même va t'inspirer des paroles. Et le Saint-Esprit va t'inspirer même l'attitude que tu dois avoir. Parce que le Saint-Esprit inspire nos attitudes. Alléluia. Et je me souviens un jour, je disais, et je vous le dis ici ce soir, en fait, à partir d'aujourd'hui, si tu es célibataire, ne te considère plus comme un célibataire, parce que Dieu ne te voit pas comme célibataire. Tu dois étendre ta main ce soir et recevoir ce que Dieu te donne, le mariage que tu as demandé. Et pour cela, tu dois changer ta mentalité, ta façon de penser. Parce que recevoir, c'est aussi ça. Ça, c'est un autre message. En dehors de la vertu, mais il y a aussi notre mentalité. Alléluia. Mais je veux seulement esquisser cela en disant ceci. Quand tu confesses que tu es célibataire, en fait, dans le ciel, dans le monde spirituel, les esprits te voient comme célibataire. Or, quand l'ange vient parler à Joseph, il ne dit pas à Joseph que ne crains pas de prendre Marie, ta fiancée. En fait, le mot fiancé, c'est simplement une transcription humaine d'une certaine réalité spirituelle selon laquelle Dieu a déjà décrété dans le ciel que vous êtes mariés, mais sur la terre, vous devez encore attendre l'accomplissement de ce que Dieu a prescrit. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir des rapports sexuels avant mariage. Mais dans le ciel, Dieu considérait Joseph déjà comme étant le mari de Marie. Voilà pourquoi l'ange dit, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. En fait, Dieu ne te regarde pas comme célibataire, il te regarde déjà comme marié. Donc, au lieu de te dire, je suis célibataire, dis en fait, je suis simplement une femme mariée en attente d'intégration de mon foyer conjugal. Acclamons le Seigneur, alléluia! Je suis une femme mariée en attente d'intégration de mon foyer conjugal. Écoutez, c'est le temps qui me manque. Vous savez, il y a sept, on a vu, sept. Je n'ai pas la vertu, mais le temps peut-être me permettre de parler des autres. Parce que je suis en train de toucher un autre aspect là. Mais rapidement encore, je vais esquisser un autre aspect. Je suis en train de parler de la loi de la réception. Vous comprenez? Toujours en train de vous aider à étendre votre main pour recevoir. Toujours, restons un peu dans la mentalité. On a quitté la vertu, on rentre dans la mentalité. Vous savez, parfois, il y a des gens qui disent, je donne mon CV à tel. Ou bien je dépose mon CV dans telle entreprise. Et puis, pendant qu'on cherche le travail, et on nous pose la question, mais tu travailles? Tu dis, non, je ne travaille pas. Je suis un chômeur. Non, tu n'es pas un chômeur. Tu dois changer le langage. En fait, tu dois te considérer comme un travailleur en attente de prise de fonction. Simplement, tu comprends ça? C'est ça, recevoir. Alléluia. C'est ça, recevoir. Te mettre dans les dispositions d'esprit qui te permettent de recevoir. Et quelqu'un ici va recevoir parce qu'il a compris la profondeur de ce message. Nous allons tous étendre nos mains vers le ciel. Pendant que je tends tes mains, en fait, tu es en train de tendre ta foi. Et nous allons simplement adorer le Seigneur un instant, si le pasteur Nina et bien sûr le groupe Louange. Et j'aimerais demander au pasteur Mouetta, chante l'Éternel également, de se joindre à l'équipe. Nous allons chanter un seul cantique, selon que l'Esprit vous conduira. Nous allons chanter un seul cantique. Et nous allons vraiment invoquer le Saint-Esprit sur la foi de chacun. Et pendant que l'Esprit de Dieu, le revêtement de l'Esprit, le pouvoir ou encore la vertu du Saint-Esprit sera en train de descendre sur ta foi, tu vas commencer à entendre quelque chose monter de ton cœur. Tu vas commencer à recevoir une inspiration venant de Dieu pour te pousser à agir d'une certaine manière. C'est la loi de la réception. Agis simplement et saisis ton miracle selon que l'Esprit te dira de faire. Nous sommes dans la loi de la réception. Alléluia! Nous sommes plus là pour demander, nous sommes là pour recevoir. C'est pas la foi qui te manque. Tu as la foi. Mais ta foi est sèche. Ta main est sèche. Pendant que tu seras en train d'adorer le Seigneur, demande à la vertu du Saint-Esprit de rendre puissante ta foi. Car ta foi est rendue puissante par la vertu du Saint-Esprit. Et alors que la vertu du Saint-Esprit sera en train de rendre puissante ta foi, elle va te pousser à agir d'une certaine manière. Alors fais exactement ce qu'il te dira de faire. Et ce soir, tu ne sortiras pas d'ici comme tu es rentré. Quelque chose va se passer dans ta vie.